Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Dégradation des conditions de travail, pression budgétaire permanente, course à la rentabilité, c'est pour dénoncer les dérives du secteur public hospitalier que l'ensemble de ses personnels est appelé à se mettre en grève demain. Une journée nationale d'action qui devrait être très suivie. De nombreuses organisations ont rejoint le mouvement dans un contexte très tendu, marqué par le suicide l'été dernier de 5 infirmiers. L'hôpital public a pourtant fait l'objet d'efforts ces dernières années, si l'on en croit la ministre de la Santé. Depuis 2012, explique Marisol Touraine, le secteur hospitalier compte 31 000 soignants de plus, des médecins, des aides-soignants et une majorité d'infirmiers, lesquels ont par ailleurs bénéficié d'une revalorisation de leur point d'indice qui sert à calculer leur salaire. Sauf que dans le même temps, l'hôpital public est soumis à un programme d'économie conséquente, 3,5 milliards d'euros sur 3 ans. Pour les syndicats, ce que le gouvernement donne d'une main, il le reprend donc de l'autre et ça fait des années que cela dure. Alors l'hôpital est-il condamné à aller mal ? C'est la question que nous posons ce soir à quatre invités. Virginie Seguin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes infirmière de nuit à la Pitié-Salpêtrière à Paris depuis une vingtaine d'années. Vous travaillez en chirurgie générale digestive et endocrinienne et vous faites partie du syndicat national des professionnels infirmiers. Pour discuter avec vous, Thomas Sagnier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous représentez les usagers au sein de la PHP, les hôpitaux de Paris. Enfin, pour résumer, vous êtes par ailleurs président de l'Association française des hémophiles. Vous avez publié en 2012 chez l'éditeur, avec Claire Compagnon, L'Hôpital, un monde sans pitié. Notre troisième invité, c'est Pierre-André Juvenne. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue et vous venez de publier Une santé qui compte. C'est une question, les coûts et les tarifs controversés de l'hôpital public. C'est un ouvrage publié au PUF et qui vous a valu de recevoir le prix Le Monde de la recherche universitaire. Et puis notre quatrième invité se trouve en duplex des studios de France Bleu Isère à Grenoble. Il s'agit d'Olivier Véran. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes neurologue au CHU de Grenoble, conseiller régional PS, après avoir été député, ce qui vous avait valu d'être rapporteur de la loi santé de Marisol Touraine. Et vous présidez désormais une mission sur l'évolution du mode de financement des établissements de santé. Alors je voudrais qu'on commence par faire peut-être un diagnostic général sur la façon dont l'hôpital vit ce malaise qui semble être un malaise, si ce n'est permanent en tout cas, qui date d'un long moment. Il y avait ce matin dans Libération le témoignage d'un directeur de CHU de province qui disait ceci: récemment, j'ai eu le sentiment qu'il se passait quelque chose de nouveau, que l'on n'était pas devant la énième plainte du monde de l'hôpital comme depuis des années. Vous qui êtes infirmière depuis une vingtaine d'années, Virginie Seguin, est-ce que vous avez l'impression qu'effectivement aujourd'hui on est dans un malaise qui est un peu différent de ce que vous avez pu peut-être connaître les précédentes années ?
Oui, alors déjà j'ai juste rectifié, je suis infirmière de nuit depuis 2009. Avant je travaillais de garde. Il y a un malaise, un mal-être pour... plus exactement pour le personnel, que ce soit aide-soignant, infirmier, les internes aussi, hein, parce que on travaille aussi avec les médecins et c'est monté très très doucement comme la marée et là ça c'est le cheval au galop. Ça s'amplifie de plus en plus.
On vous avait pas invité à l'époque, mais figurez-vous qu'en 2012, au mois d'octobre, on avait déjà fait une émission sur le malaise de l'hôpital. Donc c'est vrai qu'en préparant l'émission, on s'est dit, mais finalement, est-ce que ça veut dire que rien ne change ? Est-ce que vous diriez que rien ne change, mais qu'en même temps, le malaise, il va augmentant ?
Oui. La société qui fait ça aussi. Hein. On devient de plus en plus individualiste. Mais la pression, le stress, les changements de l'hôpital font que le personnel, là, commence à être au bord. Alors, au bord de quoi ? Du gouffre, de l'épuisement, du fatalisme, je ne sais pas. Mais il y a un malaise.
Ça se ressent aussi du côté des patients, Thomas Sagnier ?
Ce que peuvent dire les professionnels de santé qui, à l'hôpital, travaillent... aux côtés des malades, évidemment, nous, les représentants des usagers, on a ce retour-là. En même temps, c'est un long mouvement qui existe depuis un certain nombre d'années. Je pense qu'il y a une cristallisation qui est là, parce qu'il y a aussi un moment politique qui arrive et qui pointe son nez, évidemment, les présidentielles. je dirais qu'il n'y a pas plus de raison qu'il y ait eu ce type de mouvement 6 mois auparavant ou dans 6 mois. Sans aucun doute, ce qui change, c'est peut-être l'absence de perspective réelle et de conduite du changement qui soit affirmée, posée, sereinement, j'allais dire, par les acteurs qui font l'hôpital public.
Alors, on parle de l'hôpital public, d'ailleurs, ce soir. Peut-être devrait-on parler davantage, Pierre-André Juven, des hôpitaux. Est-ce que, quand on dit que l'hôpital va mal, c'est tout l'hôpital? Ou bien est-ce qu'il y a de fortes disparités des établissements qui se portent plutôt bien, et financièrement, et également du point de vue du personnel, et puis d'autres qui vont plus mal?
Il y a une vraie disparité des situations. Il y a une vraie disparité qui est liée à plusieurs choses. D'abord, ce qu'on évoquait, c'est-à-dire qu'il y a une transformation de l'hôpital aujourd'hui. Quand vous parlez de l'article de Libération ce matin, où il est question d'une nouveauté en fait dans ce mouvement, ça renvoie à la cristallisation de plusieurs choses qui arrivent à saturation, donc une transformation institutionnelle de l'hôpital qui voit ses missions complètement bouleversées. Et d'autre part, un point sur lequel on reviendra, qui est très important, c'est des contraintes budgétaires qui sont elles aussi de plus en plus importantes. Un point qui est important, c'est de voir que vous mentionniez l'année 2012. L'année 2012 était une année importante pour l'hôpital public puisqu'elle a vu l'arrivée à la présidence de la République de François Hollande et l'arrivée d'une majorité socialiste au gouvernement. Et c'était vu comme le renouveau potentiel de l'hôpital public. Le rapport Couty qui avait suivi l'année d'après dressait des perspectives très très importantes. Et évidemment, les hôpitaux étaient dans des situations très très différentes. Ceux qui se portaient mal ne se portent pas mieux aujourd'hui, et ceux qui se portent bien ne vont pas mieux.
Mais ces différences-là, est-ce qu'elles sont liées à leur capacité aux uns et aux autres établissements de mieux gérer le changement, ou bien est-ce que c'est un peu plus complexe que ça, disons?
Alors, il y a évidemment des questions d'organisation hospitalière qui sont liées aux situations locales et à la capacité des groupes à l'intérieur des établissements à faire évoluer les choses. Il y a des raisons aussi structurelles aux difficultés et qui font que certains établissements sont de façon inexorable dans une situation compliquée. Tous les hôpitaux ne sont pas dans la même situation. Il y a des différences géographiques, il y a des différences de type d'activité, il y a des différences de type de patients dans certains bassins de population. Et placer tous les hôpitaux sur le même échiquier et considérer que les règles du jeu doivent être les mêmes pour tous pose un problème, conduit certains hôpitaux à rentrer dans des vrais cercles vicieux, notamment en termes de finances et d'endettement, et d'autres par contre à profiter de règles du jeu qui ont été édictées au milieu des années 2000 et à engranger un certain nombre de bénéfices, à pouvoir investir, etc.
Alors Olivier Véran, est-ce qu'on vient pas de là déjà de toucher un premier point de difficulté à laquelle est confronté l'hôpital public aujourd'hui, c'est-à-dire de soumettre tous les établissements en dépit de leurs différences, à des règles identiques?
Vous savez, jusqu'à la mise en place de la réforme de la tarification à l'activité, il y a une dizaine d'années, les hôpitaux étaient financés via une enveloppe globale, c'est-à-dire un budget plus ou moins indépendant de l'activité qu'ils généraient. On parlait d'ailleurs de financement au PPE pour le poids politique de l'élu. Et de ce point de vue-là, la tarification à l'activité, la T2A, a permis de restaurer une équité de traitement entre les établissements. Ensuite, il est évident que quand vous appliquez des mêmes règles budgétaires à un CHU ou un petit hôpital de proximité dans un territoire reculé, eh bien le petit hôpital ne peut pas s'en sortir, parce qu'il peut pas jouer sur les volumes. Et c'est pour ça que la ministre de la Santé a mis en place, par ailleurs, une réforme du financement des hôpitaux de proximité pour reconnaître des missions particulières aux structures les plus fragiles, de façon à ce qu'on essaye de sortir de l'ambivalence du discours des pouvoirs publics, d'un hôpital qui coûterait cher, qu'il faudrait fermer, mais qu'en même temps on ne ferme pas parce qu'on en a besoin dans les territoires.
Oui, parce que vous parlez d'équité à propos de la T2A, donc cette fameuse tarification à l'activité qui a été mise en place à partir de 2004. En général, quand on évoque cette T2A, c'est plutôt pour en dénoncer les dérives, et notamment la dérive financière avec une politique du chiffre qui est imposée indirectement aux établissements, c'est-à-dire que plus ils vont réaliser des actes nombreux, plus leur dotation sera importante, Olivier Véran.
Oui, encore qu'au début, ça a permis de créer du dynamique, une bonne dynamique dans les hôpitaux, notamment publics, puisque auparavant, des chirurgiens pouvaient être convoqués par le directeur de leur hôpital au mois de novembre. Ils avaient épuisé l'enveloppe budgétaire et le directeur leur disait arrêtez de poser des prothèses. La T2A, ça a été l'inverse. Plus vous posez de prothèses, plus votre établissement engrange le financement, donc vous êtes plutôt incité à en poser. Donc au début, les règles étaient claires, c'était augmenter votre activité, vous augmenterez vos moyens. Et en fait, ce qui a changé depuis quelques années, c'est dans un contexte de tension budgétaire, de réduction des déficits, eh bien, il y a une enveloppe annuelle votée par le Parlement qui définit le budget que peuvent se répartir les hôpitaux. Et pour réussir à tenir cette enveloppe financière, eh bien, les tarifs des actes de soins réalisés à l'hôpital vont être diminués en conséquence, parfois même en dessous des coûts réels pour les hôpitaux. Comprenez qu'on est passé dans une autre logique qui est de dire augmentez votre activité et réduisez vos dépenses, car vos moyens n'augmenteront pas autant que ce qu'ils devraient augmenter.
Ce qui est un choc qui paraît quand même assez insoluble.
Thomas Sagnier. Quand un hôpital fait plus 4% d'activité et qu'il a plus 1% de valorisation, ça pose des problèmes.
C'est compliqué. Thomas Sagnier.
Et puis en plus, l'hôpital est confronté, à mon avis, à trois ajouts supplémentaires, quoi, trois défis supplémentaires. C'est que d'une part, un hôpital se situe toujours sur un territoire. Donc ça veut dire qu'il doit imaginer des coopérations avec une médecine de ville, avec d'autres hôpitaux qui ne sont pas forcément valorisés à la hauteur nécessaire. La deuxième chose, c'est que, et là cette fois-ci c'est organisationnel, il y a un vrai déficit de capacité, j'ai à la fois des professionnels de santé à pouvoir manager l'ensemble des équipes. Aujourd'hui, les professionnels, les médecins ne sont pas formés à ces questions de management. Et donc, ça a un effet, sans aucun doute, sur l'organisation de l'hôpital et sa capacité de répondre à la fois à ces défis financiers et à ces défis managériels. Et puis, on assiste aussi à une grande transformation, c'est le virage épidémiologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 25% de la population est atteinte de maladies chroniques, 15% sont en affection longue durée, donc des maladies lourdes et coûteuses, qui sont amenées à venir et revenir à l'hôpital, et ce qui veut dire que l'hôpital qui entre guillemets guérissait aujourd'hui soigne, et ce qui veut dire des organisations de travail différentes. Et c'est vrai que là, comme tout changement, eh bien il y a un temps de friction et un temps d'adaptation qui est sans aucun doute compliqué.
Virginie Seguin, vous avez l'impression, vous, que la nature de votre travail a changé entre le moment où vous êtes devenue infirmière et aujourd'hui en 2016, et que ces changements de nature de votre travail sont liés au changement de mission qui est demandé aujourd'hui à l'hôpital?
Quand j'ai commencé donc en 96, on parlait de patients, de malades. Maintenant, on parle de clients. Je ne suis plus une infirmière, je suis prestataire de service. C'est-à-dire que...
Quand vous dites on parle de clients, c'est-à-dire qui vous parle de clients? C'est quoi? C'est sur les directions de l'hôpital?
C'est
vous...
la direction, c'est à mot couvert notre encadrement, c'est notre service, je vais parler là du mien ou de l'ancien service où j'étais, c'est maintenant, on doit être rentable, c'est-à-dire que les lits doivent être occupés, il faut que les patients restent entre guillemets le moins longtemps possible dans les lits, pour pouvoir, on ait plus de patients.
Donc un bon client par exemple à l'hôpital, c'est un client qui ne reste pas trop longtemps.
Parfois, on a des patients qui restent longtemps parce que la médecine a tellement fait de progrès que pour la prise en charge en aval, on a des difficultés parce que les places en rééducation, en soins de suite, c'est compté et que on garde les patients parfois très longtemps.
En attendant que des places se libèrent.
Voilà, en attendant que les places se libèrent.
Pierre-André Juven.
Oui, il y a quelque chose de très important qui est dit là avec cette image du passage du client au patient. Et qui, en fait,
un renvoie l'inverse, pardon,
du patient au client, et qui renvoie exactement à ce que disait Olivier Véran quand il parlait des coûts et des tarifs. Et quand vous dites un patient qui est donc un client intéressant, c'est quelqu'un qui ne reste pas trop longtemps. Plus précisément, c'est quelqu'un dont le coût de prise en charge va être inférieur au tarif que l'hôpital va recevoir. Autrement dit, qui va être rentable. C'est-à-dire qu'on va verser à l'hôpital une somme supérieure au coût de prise en charge de ce patient. Et ça, il faut le replacer, parce que c'est important, et je vais me permettre de le faire, dans une évolution qui renvoie au début des années 80 aussi. C'est-à-dire que depuis le début des années 80 et le ralentissement économique qu'on connaît des années 1970, il y a une volonté de maîtriser les dépenses sociales, de contrôler les coûts et les dépenses budgétaires. Et dans ce cadre-là, une des solutions qui a été évoquée et qui s'est imposée au fil des décennies, c'est la transformation de l'hôpital en une organisation non plus seulement qui prodigue du soin, mais qui produit du soin. Qui produit du soin à un certain coût et pour un certain prix. Et le problème, évidemment, c'est que ça suppose des activités qui sont standardisables, et c'est un des problèmes qui sont rencontrés aujourd'hui par les établissements de santé. C'est-à-dire que quand vous avez une activité qui correspond parfaitement à un prix standard, a priori, le coût de prise en charge va connaître des variations très très minimes. En revanche, il y a tout un tas d'activités, et notamment les maladies chroniques, et c'était ce qui était évoqué, qui, elles, ne collent pas vraiment avec ce type de rémunération. C'est l'objet du travail que fait Olivier Véran aujourd'hui.
Et Olivier Véran, est-ce que dans le travail que vous menez justement, est-ce que vous constatez parfois des établissements qui pourraient être tentés, au regard de ce qui vient d'être dit, de choisir leur patient ?
Bon, il faut quand même rappeler qu'on a toutes les raisons d'être fiers et attachés à l'hôpital. Il ne faillit jamais dans ses missions, même dans les contextes les plus difficiles, et l'actualité récente le démontre encore une fois. Pourquoi ? Parce que les professionnels à l'hôpital montrent une très grande compétence, ils sont extrêmement disponibles, et finalement tous les patients sont accueillis à l'hôpital lorsqu'ils en ont besoin. Je pense quand même qu'il faut le rappeler, parce que on a toutes les raisons d'être fiers de l'hôpital.
Extrêmement disponibles, eux disent qu'ils aimeraient bien l'être davantage, justement,
bien
et
sûr.
Avoir
non,
un peu plus
avez,
de temps
non,
pour accorder aux patients.
Il n'y a rien qui est plus désespéré que pour une aide-soignante, par exemple, que de déposer le plateau repas de son malade sur sa tablette et de ne pas avoir le temps de l'aider à manger alors que le patient a un handicap et qu'il a du mal à manger parce qu'elle a d'autres soins à donner. On est évidemment d'accord là-dessus et je ne nie pas du tout les situations de tension. Je voudrais quand même dire que, par moment, le fait qu'il y ait des incitations par les tarifs à développer un certain nombre d'activités est un outil mis en place, utilisé par les pouvoirs publics pour développer des choses qui sont positives. Je vous donne deux exemples rapidement. Les soins palliatifs dans notre pays, nous sommes passés de 200 à 5000 lits de soins palliatifs en quelques années, puisque développer les soins palliatifs a été considéré comme quelque chose de rentable pour un hôpital. Donc parfois, c'est un effet qui peut devenir pervers, mais qui peut aussi être positif. Le développement de la médecine et de la chirurgie ambulatoire aussi. La France avait du retard par rapport à un certain nombre de pays. Moi, j'estime que la chirurgie et la médecine ambulatoire sont des bonnes façons de soigner les gens, dans la mesure où ils restent moins longtemps à l'hôpital, ils passent moins de nuits, il y a moins de risques d'infection nosocomiale, ils passent plus de temps avec leur famille.
Sauf qu'on a l'impression que le choix, justement, Olivier Véran,
on a l'impression
que justement le choix de l'ambulatoire, qui peut tout à fait se justifier, est avant tout un choix budgétaire avant d'être un choix de santé.
Alors, oui et non. D'abord, et vous avez raison sur un constat, c'est qu'on a fermé plusieurs dizaines de milliers de lits dans nos hôpitaux dans le pays depuis un certain nombre d'années. La plupart du temps, ça se fait à bas bruit. Lorsqu'on ferme une petite maternité, ça fait énormément grincer dedans et c'est tout à fait normal. L'hôpital, d'ailleurs, ce n'est pas qu'un offreur de soins, c'est un creuset de formation et c'est surtout le principal employeur dans les bassins de vie dans lesquels il est installé. Donc, lorsque vous fermez des lits, vous supprimez aussi des emplois, donc c'est une mauvaise dynamique économique que vous impulsez. Mais sur le choix de l'ambulatoire, c'est quelque chose qui était plutôt gagnant-gagnant dans la mesure où c'est plus économe, ça permet de soigner davantage de gens dans des meilleures conditions également, et que c'est plutôt plébiscité par les patients. Donc, encore une fois, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il n'empêche que vous avez raison sur la prise en charge, et Pierre-André Juvenne que je rejoins complètement, sur les maladies chroniques, il faut sortir d'un système purement T2A. On vit une époque où les gens souffrent de maladies chroniques, il faut sortir de cette logique en silo où vous avez des paiements à l'acte en ville, des paiements au séjour à l'hôpital. Il faut davantage penser le parcours du patient dans son ensemble et s'appuyer sur de nouveaux modes de rémunération et qui permettront aussi de sortir d'un certain nombre de situations de tension.
Thomas Seignet.
On voit bien qu'il y a des missions d'intérêt général, presque des missions d'intérêt général de l'hôpital qui vont au-delà de la simplification du tarif à l'activité. C'est-à-dire que vous avez parlé, on parle bien de situations complexes pour les malades chroniques, de personnes en situation de vulnérabilité. On voit bien que ça ne colle pas dans une standardisation comme ça a été dit. Sur la question
Il faudrait faire quoi du cas par cas, selon vous, par pathologie, par établissement?
Par exemple, l'exemple du mode de financement, par exemple pour les maladies rares, est un bon modèle qui, à la fois sur les enjeux de qualité et sécurité des soins, et sur les modes de financement, vient compléter des standardisations de soins. Mais sur la chirurgie ambulatoire, c'est tout d'abord ne plus être longtemps à l'hôpital, c'est quand même un progrès pour les patients. Mais simplement, il y a un enjeu de qualité et de sécurité des soins qui doit être en même temps. C'est deux piliers qui doivent être suivis. Or, la question pour les patients, la durée d'attente au bloc, la communication de l'information sur ce que veut dire la chirurgie ambulatoire, la durée de la consultation, pour décider de la chirurgie ambulatoire, une fois que l'acte est fait, le fait que l'équipe soit pas joignable et quand le patient reste à domicile,
quand vous évoquez les questions de sécurité, oui. Thomas Seignet, est-ce que ça veut dire que parce qu'il y a quand même cette démarche forte de développer l'ambulatoire, parfois ça peut se traduire par une moindre vigilance à l'égard des patients.
Je pense que l'élan chirurgie ambulatoire fait qu'on est allé très vite sur ces questions, on est en train d'être très vite, même si on considère qu'on a beaucoup de retard en France sur cette question-là, et sans aucun doute que du côté des patients eux-mêmes, ce qui est la plupart des patients disent que quand on parle de chirurgie et qu'on leur propose la chirurgie ambulatoire, quand on leur parle de chirurgie ambulatoire, en fait les personnes n'ont pas souvent donné leur consentement à la chirurgie. Ils n'ont pas prévu en fait devancer, préparer les conséquences que ça implique un retour à domicile très rapide.
Pierre-André Juven.
Oui, deux choses. La première, pour réagir à ce que disait Olivier Véran, qui est très juste et qui est très important, c'est-à-dire qu'effectivement, les mécanismes de financement de l'hôpital ont permis des incitations tarifaires, c'est-à-dire de placer des tarifs plus hauts que les coûts de prise en charge et donc de dire aux établissements de santé, pratiquez en ambulatoire, développez les soins palliatifs, vous gagnerez de l'argent. Il faut voir et il faut analyser la situation aujourd'hui à l'hôpital du point de vue des soignants, comme aussi une incompréhension, c'est-à-dire qu'on peut se demander dans quelle mesure est-ce que c'est, et c'est la question qui peut être amenée à se poser, aux incitations tarifaires à transformer la pratique médicale et à transformer la façon dont on fait de la médecine et de la santé en société. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, l'exemple qu'il prenait de l'ambulatoire est très intéressant. C'est-à-dire que il y a effectivement une bonne raison à faire de l'ambulatoire. On laisse les patients moins longtemps à l'hôpital. Il y a un risque moindre de contracter des maladies nosocomiales. Mais en général, cette injonction à l'ambulatoire a aussi, et c'est ce qui a été dit, une validité budgétaire. Et lier les deux, c'est très important pour les pouvoirs publics parce que ça permet de justifier au nom de la qualité des soins une diminution des coûts.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
L'hôpital est-il condamné à aller mal? C'est la question que nous posons ce soir à quatre invités. Olivier Véran, qui préside une mission sur l'évolution du mode de financement des établissements de santé. Pierre-André Juven, sociologue, qui publie Une santé qui compte au PUF. Thomas Sagnier, représentant des usagers de l'hôpital au sein de l'APHP. Et Virginie Seguin, infirmière à Paris depuis une vingtaine d'années. Si on fait cette émission aujourd'hui, c'est parce que demain, il y a donc un mouvement de grève à l'appel d'une intersyndicale pour dénoncer en particulier la dégradation de la qualité de vie au travail dans l'hôpital public. Virginie Seguin, pour préparer l'émission, on a notamment été en contact avec un de nos auditeurs qui s'appelle Nicolas, qui est infirmier dans un service d'urgence en Gironde et qui nous racontait sa journée de travail type. Il dit, voilà, on travaille avec nos tripes, je commence à 8 heures, je ne mange pas avant 15-16 heures et je termine à 20 heures. Le rognage sur les pauses s'est installé petit à petit, il n'y a pas assez de personnel. J'ai 200 heures supplémentaires non payées. Est-ce que vous vous reconnaissez un peu dans cette journée de travail-là, Virginie Seguin?
Oui, moi je travaille en 10 heures, mais bon, ça s'en rapproche pas mal. Oui, on rogne sur notre temps de repos pour pallier, alors, surtout de nuit, aux angoisses des patients, pour essayer de faire notre travail bien. Mais avec toujours cette peur au ventre de se dire, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Est-ce que je vais pas faire une erreur?
C'est parce que vous êtes plus assez nombreux?
Là, ce week-end, on était le bon nombre, c'est-à-dire un infirmier pour 10 patients. Après-demain, je serai seule pour 15 patients et ma collègue aura aussi 15 patients. C'est-à-dire que si moi, le réveil m'appelle en me disant « faut venir chercher votre patient », je descends avec l'aide-soignant et ma collègue va rester seule avec un aide-soignant pour 30 patients. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que de son côté, sur son côté, il y ait un problème. Il ne faut pas non plus que sur mon côté, il y ait un problème, non, parce qu'on ne pourra pas... On met...
Mais à quoi vous l'attribuez finalement cette difficulté aujourd'hui à avoir suffisamment de temps pour vous occuper des patients?
La charge de travail, c'est-à-dire que quand on doit gérer 10 patients, parfois, là-dessus, on rogne sur le temps de pause. Et quand vous en rajoutez 5, qui parfois sont lourds, ils sont infectés, donc il faut qu'on les fasse en dernier, il faut réaménager son organisation de travail. Et quand vous devez faire des bilans à 6 heures, et que là, pour le bilan de 6 heures, vous êtes obligé de réveiller les patients, dans le meilleur des cas, à 5 heures, dans le pire des cas, à 4h30, je fais d'une certaine manière une maltraitance envers mes patients, à les réveiller à 4h30 en disant bonjour, je vais vous faire une petite prise de sang. Et bon, il est quelle heure? Il est 4h30. Bon, si j'ai le temps, je repasserai vous voir avant que je parte, c'est-à-dire 7 heures. Mais, donc en début de nuit, on prévient les patients en disant, voilà, ce soir, je vous préviens que demain matin, il va falloir que je vous fasse une prise de sang ou je vais passer tôt parce que mon organisation ne me permet pas de reporter vos soins plus tard pour que vous ayez une bonne qualité de sommeil, de récupération.
Olivier Laurent, est-ce qu'il y a un problème d'effectif aujourd'hui à l'hôpital ?
D'abord, je voudrais dire que le métier le plus difficile que j'ai connu moi-même comme acteur de soins, c'était le métier d'aide-soignant de nuit. J'ai travaillé 2 ans de nuit à mi-temps pour financer mes études de médecine en gériatrie. Et déjà à l'époque, je suis pas si vieux, mais enfin, c'était il y a 10 années. Et déjà à l'époque, la charge de travail qui pesait sur mes épaules, la fatigue des gens avec qui je travaille, et en même temps, l'énergie qu'ils mettaient à prendre soin de leurs malades était admirable. Moi, j'en ai gardé un souvenir très fort et j'ai absolument pas honte de le dire. C'est le métier le plus difficile que j'ai pu réaliser. Donc je comprends parfaitement qu'au bout d'un certain temps de pratique, dans des conditions qui peuvent se complexifier avec le vieillissement de la population, aux urgences, vous parliez d'un infirmier aux urgences, l'activité aux urgences augmente parfois de 4 à 5% par an. Donc vous avez de plus en plus de monde avec des tailles, des locaux qui ne sont pas forcément adaptés. Donc vous courez en permanence après les malades que vous devez prendre en charge et vous n'êtes pas convaincu de faire de la bientraitance en permanence qui crée du stress supplémentaire en plus de la fatigue et du stress professionnel. Donc moi je comprends parfaitement.
Mais si cette activité augmente, Olivier Véran, oui. Est-ce que c'est parce qu'il y a de moins en moins de personnel ou est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de monde qui vient à l'hôpital et que peut-être l'augmentation, disons, du personnel, puisque le ministère de la Santé dit qu'il y a eu environ 30 000 postes qui ont été créés depuis 2012, mais que ça ne suit pas suffisamment l'augmentation du nombre de patients, par exemple ?
Bon, je vais pas être politiquement très correct. Allez-y. Il y a effectivement une augmentation du personnel sensible ces dernières années. Il y a effectivement une augmentation du nombre de malades qui vont aux urgences. Est-ce que c'est corrélé? Je ne sais pas. La complexification des prises en charge est une réalité de jour comme de nuit. Il y a eu la mise en place des accords sur la réduction du temps de travail à l'hôpital, dont on sait, c'est pour ça que je dis pas politiquement correct, mais en même temps c'est assez reconnu, qui a pu avoir un impact sur l'organisation des soins dans les équipes. Voilà. Après, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a une augmentation sensible du personnel, mais en même temps, si je prends des exemples qui m'ont été relatés dans les territoires dans lesquels je me suis déplacé dans le cadre de ma mission, on me parle de congés maternité qui sont de moins en moins remplacés, d'arrêts maladie qui ne donnent pas lieu à des remplacements, de départs à la retraite qui sont pas forcément remplacés tout de suite. C'est pareil dans le médical. J'ai dénoncé dans un rapport parlementaire le recours croissant à l'intérim médical pour essayer de compléter des équipes qui étaient fragmentées avec des médecins qui ne sont plus là. Et on voit bien que la charge de travail qui repose sur les personnes qui restent, et surtout celles qui restent dans la durée, cette charge de travail peut augmenter selon les secteurs et les activités. Donc on ne peut pas nier qu'il y ait plus de personnel, on ne peut pas nier qu'il y ait plus d'activités, et on ne peut pas nier qu'il y ait une charge de travail qui soit ressentie à raison ou à tort, il ne m'en revient pas d'en juger, comme étant croissante. Et comme je vous disais que ce sont des personnes qui mettent énormément d'énergie et de passion dans leur travail, eh bien on se trouve très vite fragilisé dans son exercice professionnel, et ça peut conduire au burn-out, voire à des situations encore plus dramatiques.
Est-ce qu'on peut parler d'une forme de décalage peut-être, Pierre-André Juvène, entre le ressenti et la réalité?
Entre le ressenti de...
Le ressenti des personnels soignants qui considèrent qu'ils sont de plus en plus surchargés de travail, et peut-être une réalité qui est peut-être un peu moins dramatique que ce qui en est dit.
Non, encore une fois, ça dépend, c'est ce que vous disiez au tout début de l'émission, ça dépend dans quel hôpital on va regarder les problèmes qu'il peut y avoir. Si on va dans un établissement de taille moyenne qui a une augmentation de l'activité, des moyens pour investir, une population facile à traiter, il y aura très très peu de problèmes dans ce cas-là. Si par contre on va dans certains établissements de santé en Île-de-France qui ont à traiter des populations qui sont très précaires, qui ont à assurer des urgences dans des conditions très difficiles, enfin, tout dépend encore une fois de la situation la situation qu'on observe. Ce qui me paraît important, moi, pour reprendre ce qui a été dit là jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a, au fond, la question que vous posiez, c'était l'hôpital est-il condamné à aller mal? Il y a trois mots apparents. Il y a le mal concernant les soignants, c'est-à-dire les professionnels de santé qui ont à faire face à des réorganisations et à des difficultés en termes d'effectifs, d'heures de travail, de fatigue. Il y a les maux des patients qui subissent, parce que il faut toujours lier les deux, c'est-à-dire que les maux des soignants entraînent les maux des patients qui peuvent se sentir mal accueillis, maltraités, etc. Et il y a un troisième mal qui est un mal qui est beaucoup plus complexe à saisir, qui est ce mal budgétaire et qui a un lien direct avec la question des soignants et avec la question des patients. Et si on voulait forcer un petit peu le trait, on pourrait dire que sur ces dernières 15 années, les gouvernements ont eu une priorité. Ça ne veut pas dire qu'ils ont négligé la question de la santé des patients et la question des professionnels de santé, mais la priorité, c'était la santé des comptes sociaux.
Alors, quelle devrait être la priorité désormais, Thomas Sagnier, du point de vue des malades que vous représentez ?
La priorité, elle se définit quand les priorités se définissent d'abord sur le fait qu'il faut pallier la difficulté auquel fait face l'hôpital. C'est-à-dire que si des professionnels de santé disent qu'ils se sentent pas bien, je pense que ça mérite d'être écouté et d'être entendu. Maintenant, il est vrai qu'on investit de plus en plus dans l'hôpital. C'est vrai qu'il y a de plus en plus, il y a du personnel en plus. En tout cas, alors je sais pas comment il est réparti, mais il y a du personnel en plus. Et donc, à mon avis, l'un des enjeux, c'est aussi de l'organisation. Et c'est de la capacité, au fond, de l'hôpital de s'organiser autrement pour faire face à des demandes nouvelles du public et sur la manière d'être usager de l'hôpital. Et c'est vrai qu'aujourd'hui est apparu un nouvel acteur au sein de l'hôpital, quoi qu'il existe depuis 1996, ce sont les représentants des usagers, qui sont issus d'associations de patients, de familles, de consommateurs, de handicapés, et qui ont pris une place au sein de l'hôpital, qui a encore du mal à s'affirmer, mais j'y reviendrai sans aucun doute, mais qui s'appuie en tout cas sur un historique associatif qui est très important, qui était lié aussi à la présence de la question de l'apparition de l'épidémie de sida, qui a fait que là, les citoyens sont arrivés avec un changement de paradigme, une exigence nouvelle en termes de services, oui. Et en termes de retour. Parce que ces personnes atteintes de maladies chroniques ont acquis une expérience sur la pathologie, ont voulu s'en sortir par eux-mêmes, ont voulu travailler leur propre situation médicale, alors qu'auparavant, ils étaient dans une passivité. Donc, évidemment, l'exigence du public est devenue plus importante. Et l'hôpital, il sait pas trop prendre ça, il sait pas par quel bout le prendre. La loi a posé un certain nombre de cadres aujourd'hui, et la loi de 2016, la récente loi de 2016 de modernisation du système de santé, a accru, j'allais dire, la capacité des représentants des usagers, notamment avec la commission des usagers, qui est chargée d'analyser l'ensemble des bonnes pratiques, dysfonctionnement de l'hôpital. Est-ce qu'on veut véritablement que les citoyens engagés dans le domaine de santé soient entendus et participent à l'amélioration de la qualité et la sécurité des soins? Ils sont utilisateurs du système de santé. Je pense qu'ils ont quelque chose à dire. Ils ont une expérience à faire connaître. Il faut aussi que les professionnels de santé, les administratifs au sein des hôpitaux, acceptent d'en faire un nouvel acteur utile pour l'hôpital.
Ah, qu'est-ce que vous répondez à ce type de discours, Virginie Segas, qui n'a pas une difficulté, qui serait tout à fait compréhensible, justement, à intégrer aujourd'hui le patient dans un univers qui est déjà très organisé et très hiérarchique? Donc on met un acteur de plus, c'est pas évident.
Moi je pars du principe que le meilleur médicament pour le patient, c'est lui-même. Il faut lui donner envie de s'en sortir. Je vais prendre un cas concret. J'ai eu un patient à qui on a diagnostiqué un cancer du côlon. Il savait pertinemment qu'il allait avoir une stomie à vie et il s'est dit « mais comment je vais faire avec ma famille ?» Et il a eu des moments très difficiles avec sa femme. Il a fallu que sa femme accepte sa stomie. Ses enfants acceptent sa stomie, son cancer. Il est décédé depuis, mais on a travaillé avec lui en équipe où... consciemment ou inconsciemment, on s'était pas donné le mot, mais on lui a dit, bon bah voilà, vous allez l'avoir, votre stomie, elle va faire partie intégrante de votre vie, et ben on va travailler avec vous, on va vous aider à l'accepter. Et oui, on a besoin du patient, parce qu'il va nous renvoyer ce que les manquements, entre guillemets, qu'on peut avoir. Tout comme nous, on leur renvoie aussi une écoute, sauf que quand des fois l'écoute elle est diminuée parce qu'on n'a pas le temps.
Et puis parce que vous nous disiez en préparant l'émission qu'on vous demande souvent aussi de changer de service et donc de devoir endosser des compétences qui sont pas forcément des compétences que vous avez parce qu'il faut boucher les trous.
Ben maintenant on travaille en pôle, c'est-à-dire qu'une infirmière d'ophtalmo va peut-être pouvoir, s'il manque du monde en neurochirurgie, il va falloir qu'elle aille travailler en neurochirurgie. Alors est-ce qu'elle va connaître tous les protocoles, l'organisation, les pathologies, c'est pas évident. Ça rajoute aussi un stress.
Pierre-André Juven.
Oui, ce qui est intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est la question de la chronicisation. C'est un objet majeur pour les pouvoirs publics aujourd'hui, c'est-à-dire qu'énormément de pathologies sont amenés à devenir des pathologies chroniques, et c'est le cas, vous mentionniez le cancer, et donc ça suppose une réorganisation et une recomposition effectivement du monde de la santé et en particulier de l'institution hospitalière. Cette réorganisation, elle pose un certain nombre de questions, et alors c'est pas dire que l'hôpital n'est pas condamné à aller mal, mais il va falloir surveiller de près ce qui va se passer dans les années qui viennent, parce qu'on est vraiment à un moment très important où la définition même de l'hôpital va changer. Un exemple très simple, pendant très longtemps, l'hôpital était un lieu d'accueil. Les hospices étaient historiquement avaient vocation à accueillir les gens, non pas à les soigner. À partir du XXe siècle, l'hôpital devient un lieu où on accueille et où l'on soigne. L'hôpital au XXIe siècle est progressivement amené à devenir, en tout cas c'est ce que les pouvoirs publics veulent en faire, un lieu où l'on n'accueille plus, où l'on soigne seulement et où on traite les pathologies aiguës, ce qui conduit à des questions très importantes comme la question de l'hôtellerie. Les hôpitaux réfléchissant à construire des hôtels à côté de leur lieu, ce qui va poser la question aussi progressivement d'un report de charges sur les patients, et c'est là que les associations de patients seront importantes dans le débat. Et donc toute cette recomposition de l'hôpital, elle est en partie liée à cette question de la transformation et de la chronicisation.
Il y a un enjeu formidable d'accompagnement. C'est-à-dire, est-ce que l'hôpital est en capacité d'accompagner le développement de l'éducation thérapeutique du patient, c'est-à-dire une autre manière de faire le soin, à transmettre des compétences aux patients, est un enjeu majeur dans les maladies chroniques. Aujourd'hui, l'hôpital tel qu'il est organisé par consultation, soins, évidemment, a du mal à appréhender cela. Et la valorisation de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire l'accompagnement sur le long terme des patients, est aujourd'hui pas valorisée à la hauteur. C'est une des éléments. Une expérience fantastique, passionnante, qui se met en place en ce moment à travers l'université Paris 13 ou à Paris 6, mais l'université Paris 13 dans un programme qui s'appelle PEP 13, qui est des patients qui forment des étudiants de médecine générale aux enjeux de maladies chroniques. Au fond, qu'est-ce que c'est que le soin? C'est-à-dire qu'eux, ils ont toute la formation, les protocoles de soins, ils savent. C'est-à-dire, voilà, mais il faut que ça soit contextualisé aussi dans la vie des personnes. Et ça, il faut être en capacité, évidemment, il faut que l'hôpital soit en capacité de saisir cette question-là, parce qu'on ne peut pas faire que du soin direct, automatique. Il faut être en capacité de faire du soin tout au long de la vie. C'est l'enjeu des maladies chroniques.
Et pour qu'ils soient en capacité, il faut réfléchir à l'évolution de son mode de financement. Petite pirouette pour repasser la parole à Olivier Véran. Cette mission que vous présidez a déjà rendu un rapport intermédiaire, disons. C'est pas encore le rapport définitif. Mais pour l'heure, quelle serait la principale préconisation que vous auriez envie de faire connaître sur le sujet?
Je vais m'en permettre deux rapidement et un message. D'abord, une préconisation qui rejoint ce qu'a dit Thomas Sagnier. Je suis tout à fait d'accord, il faut un hôpital plus ouvert, oserais-je dire un hôpital plus citoyen. Le succès jamais démenti des palmarès hospitaliers atteste de la volonté des patients de savoir où se faire soigner en connaissance de cause. J'ai proposé dans le rapport d'étape que nous servions d'indicateur de confiance des professionnels dans la qualité des soins qu'ils donnent aux malades, mais également des retours des usagers du soin de l'hôpital pour créer des indicateurs de qualité à mettre à disposition des hôpitaux et du public. Je crois qu'il faut aller vers l'ouverture de l'hôpital, c'est important.
Et ces indicateurs, ils serviraient à rémunérer les hôpitaux ?
Alors là, il y a deux écoles, une école qui est très très opposée à cette idée. Moi, je pense qu'il faut commencer par rendre disponibles ces indicateurs et inciter les hôpitaux à s'en saisir. Sinon, on ira vers un TripAdvisor de la santé, et je pense que ce n'est pas la meilleure solution. Donc, il faut être des acteurs de l'évaluation de la qualité. Deuxième point sur les maladies chroniques. Bah, écoutez, l'hôpital, il souffre énormément de la divergence des discours des pouvoirs publics. De quoi parle-t-on en ce moment quand on parle de santé? On parle de virage ambulatoire. On considère que l'hôpital en fait trop. On critique l'hôpitalo-santé. Et on dit que c'est à la médecine de ville de prendre en charge les malades chroniques. Or, quand vous avez dans un territoire deux hôpitaux distants de 120 km, et qu'au milieu vous n'avez pas ou pas encore de médecins en nombre suffisant pour prendre en charge tous les malades, eh bien les malades, de fait, ils vont à l'hôpital pour se faire soigner leur maladie chronique. Donc moi j'appelle à ce que nous tenions compte du fait que l'hôpital est un offreur de soins ambulatoires à destination des maladies chroniques. Qu'on lui donne des moyens d'embaucher des psychologues cliniciennes, des infirmières d'éducation thérapeutique, qu'on lui donne les moyens de développer des plateaux techniques qui accueille des patients sur des courtes périodes de temps. Et quand je dis cela, ça veut dire qu'il faut y consacrer des moyens au début, parce qu'au début, ça coûtera un petit peu plus cher. Et j'attire la vigilance des gens qui nous écoutent, et je leur demande d'être extrêmement attentifs à la nature des programmes politiques qui sont actuellement véhiculés dans le cadre des campagnes. Quand on parle de supprimer des postes de fonctionnaires, quand on dit qu'on va attaquer la fonction publique, eh bien on parle de fermeture d'unités hospitalières, de services entiers, et on parle de déstructuration du parc hospitalier. Donc faisons très très attention dans la période.
Et bien voilà, ce sera la conclusion conclusion pour ce soir. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Olivier Véran, j'en profite pour remercier nos camarades de France Bleu Isère à Grenoble, Pierre-André Juvenne, Thomas Sagnier, Virginie Seguin. Les références bibliographiques des uns et des autres, c'est sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Un grand merci également à notre auditeur Nicolas, l'infirmier, qui nous a aidés dans la préparation de cette émission. Puis je vous renvoie également à la série cette semaine de Marie Richeux pour les nouvelles vagues, Prendre soin, et elle évoquait justement la question du métier d'infirmier aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Mathilde Barbier, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Cyril Baer, Isolde Sicard, émission réalisée par Anne-Laure Chadel, avec la prise de son ce soir Anthony Thomasson. Demain, peut-on informer sur la guerre en temps réel? Nous parlerons notamment de la bataille de Mossoul et comment font les journalistes pour travailler sur place.